Il est temps de réfléchir à un autre ordre alimentaire mondial, réaliste et capable de nourrir bien les 10 milliards de terriens de demain. Un monde où pesticides et médicaments seront l'exception et où les équilibres naturels redeviendront la règle. C'est le message que nous fait passer Pierre Veil au travers de son ouvrage « Mon assiette, ma santé, ma planète » paru chez Plon.
Je voulais pas que ce soit uniquement un ouvrage de constat noir. Et à la fin, je propose quelques solutions, déjà en dressant un tableau de ce qui pourrait être notre avenir nutritionnel demain, et puis quelques clés pour y arriver, et qui commencent par un comportement de consommateur éclairé, mais avec des choses un petit peu basiques, hein, c'est de regarder, de lire les étiquettes, faire attention à certaines appellations, de privilégier tout ce qui est local, de saison, etc., et puis de veiller à 3-4 ratios qui sont intéressants à la fois en termes de santé et en termes d'environnement. Sur des dossiers qui sont aujourd'hui très médiatisés, mais qui ne l'étaient pas il y a quelques années, il y a la demande sur le bio.
Le bio, justement, vous en parlez dans la partie consacrée aux pistes pour avoir quelques solutions pour demain. Quel est votre avis sur le bio premier prix? On voit pas mal de publicités en ce moment sur des chaînes de grande distribution qui s'engouffrent vraiment dans ce créneau. Est-ce que c'est possible, tout simplement, le bio premier prix?
Je pense pas. Dans mon livre, je consacre un chapitre au bio, à son histoire, à ses valeurs. Si on met les mêmes mécanismes qui ont fait les racines de la malbouffe, cette volonté d'avoir un budget alimentaire qui diminue tout le temps, si on applique ces mêmes mécanismes qui sont une massification de l'offre et puis une massification de la demande, les économies d'échelle, les pincements logistiques, etc., ben, si on applique ça au bio, on va transformer les produits bio au premier prix en produits standards. Je donne un exemple qu'il faut prendre pour ce qu'il est, un exemple catastrophique, mais seulement un exemple et pas une critique généralisée du bio. C'est les œufs bio qui sont un formidable succès commercial, mais quand on analyse des œufs bio sur leur valeur nutritionnelle, c'est quasiment les pires qui soient, parce que les poules, ce qui sont dites poules plein air, sont plein air comme les autres, c'est-à-dire qu'elles ont une porte du bâtiment ouverte pour qu'elles aillent dehors, et elles mangent de l'aliment, qui est de l'aliment industriel, qui est de l'aliment bio, mais qui vient en immense majorité, c'est du tourteau de soja ou des graines de soja bio qui viennent de Chine et du maïs bio qui vient d'Ukraine. Si on met exactement les mêmes réflexes d'achat avec les mêmes interlocuteurs industriels d'un côté, distributeurs de l'autre, eh ben on va faire des bio standards, voire pire que le standard dans certains cas. Alors à côté de ça, il y a plein tas de réseaux extrêmement respectables, des AMAP à certains circuits de distribution bio qui sont pas tombés dans ce panneau-là. Par contre, la massification du bio avec les courgettes ou les légumes bio qui viennent de pays où la main-d'œuvre est pas chère et le soleil généreux à contre-courant des saisons, ça c'est pas bien. Je pense que ça appelle une réflexion et une prise de conscience à un autre niveau.
On sera toujours obligé de faire un choix entre qualité et quantité?
Oui, je pense, oui, tout à fait. C'est un peu le choix que je donne souvent, c'est l'histoire du vin, hein, du pinard. Il y a un petit siècle, les producteurs de vin en France manifestaient parce qu'il y avait une surproduction de vin. Et puis petit à petit, patiemment, ils ont construit des filières qualité, ils ont remplacé la quantité par la qualité. Et bien, appliquer ce principe-là aux autres produits alimentaires, et je pense qu'il est tout à fait possible de se nourrir convenablement avec moins de quantité, plus de qualité. On vit quand même dans une planète où il y a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim et 1 milliard de personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Donc il y a un problème de répartition avant de parler d'un problème de quantité. Et puis c'est pas politiquement correct, mais faut oser dire que les budgets alimentaires sont tombés à des niveaux scandaleusement bas. Aux États-Unis, c'est 10% du budget moyen d'un Américain qui est consacré à se nourrir. En France, c'est 14%, on n'est pas loin.
Est-ce que c'est un effet de la crise?
Oh non, non, c'est une tendance lourde et constante. C'est le fait qu'il y a d'autres besoins qui sont passés devant. Le premier budget, je crois que c'est le logement. Poser des questions sur les valeurs de notre société. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est le transport. Après, c'est les loisirs. Et la santé est pas très loin. C'est-à-dire qu'on mange tellement mal qu'on a gonflé le budget santé dans des proportions affolantes. Non, je pense que c'est ce que j'essaie de décrire en disant que ça peut pas durer. C'est que cette massification, ça a baissé les coûts, ça a appauvri les valeurs. Et ce qu'on produit plus dans les champs, on le compense à la pharmacie. Il n'y a pas très longtemps, il y a un toxicologue qui s'appelle Jean-François Nardone qui s'occupe de toxico à l'AFSA, qui intervenait avec moi dans une conférence et qui racontait un truc que je trouve tout à fait symbolique. Il faisait des prélèvements pour rechercher des molécules type pesticides dans une rivière qui, de mémoire, s'appelle la Baïse et qui traverse une région agricole qui est le Gers. Il disait qu'il y avait autant de résidus de médicaments que de résidus de pesticides. Et je trouve que c'est assez extraordinaire, c'est assez révélateur du fait de dire d'un côté, on appauvrit nos sols en travaillant avec des monocultures qui tiennent qu'à coup de pesticides et qui sont désastreuses pour la vie des sols, des terres, de notre environnement. Et puis ça produit des calories creuses et des aliments tellement appauvris qu'à l'autre bout de la chaîne, il faut compenser tout ça à coup de médicaments. Mais on va dans le mur, je crois. Même les grands labos pharmaceutiques, même les grandes firmes de l'agrochimie l'ont compris.
Ils l'ont compris, mais pour autant, le système, vu comment il est tourné en ce moment, c'est plutôt dans leur sens.
Ah oui, mais ils ont compris. J'ai eu des discussions avec des gens de labos pharmaceutiques qui me disaient, de toute façon, si on continue comme ça, on va tuer la poule aux œufs d'or, et on va faire exploser la sécurité sociale. Et ils ont des politiques de prévention qui sont très vertueuses, qui développent parce qu'ils ont compris que ce modèle-là, il ne pouvait pas durer éternellement. Ils l'ont compris peut-être avant la majorité des consommateurs. Il y a des firmes de l'agrochimie qui l'ont compris aussi. Par contre, entre les deux, on n'a pas toujours compris dans la chaîne qui va de la distribution agricole à la distribution alimentaire. Ben, les réflexes datent de ce que je racontais des œufs bio tout à l'heure, quoi. Les réflexes sont en place. Ça date de des années d'après-guerre où il fallait nourrir les Français et pour se poser de questions. Et ben, on raisonne en chiffre d'affaires à l'hectare. Ben, plus il y a de pesticides, d'engrais, de semences, de mieux fait. Ben, c'est un raisonnement qui est malheureusement économique pour un certain nombre d'acteurs qui font des chiffres d'affaires à l'hectare qui permettent de payer des entreprises, des salariés, etc. Il n'y a qu'une façon d'inverser ça, une seule, c'est d'arriver à ce que le budget alimentaire passe de 14% à 14,5% plutôt que de passer de 14 à 13,5% comme c'est parti. À partir du moment où on crée de la valeur ajoutée vers l'aval, on n'a plus besoin de diminuer les coûts et on n'a plus besoin de faire du chiffre d'affaires à l'hectare.
Dans une partie de votre ouvrage que vous accordez au désordre alimentaire à l'échelle mondiale, vous citez l'exemple de l'huile de palme qui est quand même la première huile consommée au monde. Elle envahit la plupart des aliments et on en consomme sans même s'en rendre compte aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Maintenant, ils appellent ça huile végétale. Quand c'est écrit huile végétale, c'est de l'huile de palme. Si c'est du colza ou de l'olive, ils l'écrivent en toutes lettres. L'huile de palme, c'est l'huile la moins chère du monde, parce qu'on produit 6 fois plus d'huile sur un hectare de palmeraie à l'équateur que sur un hectare de colza ou d'olivier. L'huile en elle-même, c'est pas un désastre. Il y a des civilisations qui ont toujours utilisé de l'huile de palme en Afrique. Par contre, aujourd'hui, ça présence partout, ça c'est dramatique. Sur le plan de la nutrition. Alors c'est aussi une espèce d'escroquerie parce que le palme, qui est une huile végétale, a profité de la mauvaise réputation du beurre et des graisses animales. Et de la margarine ont réussi à vendre des trucs qui étaient bourrés de graisses saturées issues du palme, hydrogénées maintenant plus ou moins. Voyons, c'est bien parce que c'est des huiles végétales. Donc ça, c'est quand même une escroquerie. On peut pas laisser passer ça. Et sur le plan environnemental, ben, ça a aussi été une catastrophe parce que même si tous les défrichements en Amazonie ou en Indonésie ne sont pas liés à l'huile de palme, il y en a d'autres, mais l'expansion de la culture ne s'est fait qu'à coup de défrichements de forêts primaires. Et ça, quand même, c'est pas bien. Et quand on voit que maintenant, ils vont en faire des biocarburants, ben, ça pose question. Ça, sur le plan environnemental, on a quand même du mal à trouver quelque chose de positif concernant l'huile de palme. Tous les gens qui s'occupent de comportement alimentaire le disent, on ne peut rien construire en termes de comportement alimentaire stable si on oublie le plaisir, qui est la clé quand même. On a mis dizaines de millénaires à acquérir ça. Donc il faut retrouver le plaisir de manger, le plaisir de partager et le plaisir de faire à manger. Il y a toute une panoplie très simple de choses qui fait qu'on a un peu notre avenir dans nos mains.